Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Samuel Bernard, Marguerite Caton et Corentin Mansois, réalisée ce matin par Vincent Abouchard et à la technique Ludovic Auger. Cette semaine dans Culture Monde, une série consacrée aux langues et à cette incroyable diversité des langages pratiqués à travers la planète. Des langues qui se font parfois concurrence et entrent en conflit, guérilla linguistique. C'est la thématique de notre semaine et comme toujours en 4 épisodes. Mardi, direction l'Asie centrale où nous verrons que se joue une véritable guerre des alphabets. Mercredi, il sera question de la cohabitation parfois tendue du français avec les langues locales en Afrique de l'Ouest. Et enfin jeudi, Babel à Google Trad, nous poserons la question de la possibilité d'un langage universel. Mais aujourd'hui, nous parlons des langues menacées de disparition. À la recherche de la langue perdue, c'est notre sujet ce matin.
Toutes les deux semaines, il y a une langue autochtone qui disparaît.
Tous ceux qui parlaient notre langue sont partis. Ils sont tous au ciel. Je suis seul ici. Je commence à oublier la langue. Je n'ai plus personne à qui parler.
À la région où on parle, Tecticteco est très proche de la frontière mexicaine. Le Tecticteco est donc très influencé par l'espagnol. On en compte environ 2000 locuteurs, mais son usage se perd peu à peu. Et avec la langue disparaissent les coutumes, une certaine vision du monde et toute une tradition orale transmise de génération en génération.
Le Nakota au Canada, le Tecticteco au Guatemala, mais aussi le Mpongwe au Gabon, le Quechua au Pérou, encore le Breton en France, font partie de ces langues menacées de disparaître dans les décennies à venir, selon l'UNESCO. Le 28 janvier dernier, l'organisation a décrété 2019 Année internationale des langues autochtones. L'objectif, promouvoir la diversité et surtout alerter sur le risque d'extinction de certaines langues. En effet, selon l'organisation, 680 langues et dialectes seraient susceptibles de s'éteindre dans les décennies à venir. Si la protection des langues et des parlers locaux fut longtemps considérée comme un problème mineur pour les populations, mais aussi pour les autorités politiques, elle est devenue, depuis les années 90, une véritable préoccupation et l'objet de programmes spéciaux pour revitaliser, voire faire renaître ces langues dont l'UNESCO nous dit qu'elles sont une part de notre patrimoine culturel commun. Alors faut-il s'inquiéter de la perte de diversité des langues de la planète? Pourquoi les langues disparaissent-elles et quelles en sont les conséquences culturelles, sociales, économiques? Comment, pourquoi et pour qui maintenir et protéger ces langues? Enfin, peut-on faire renaître une langue presque éteinte? Eh bien, une invitée ce matin à nos côtés pour répondre à toutes ces questions, Bénédicte Pivot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociolinguiste, maîtresse de conférences à l'université Paul-Valéry de Montpellier 3. Vous êtes membre du laboratoire d'Ipralangue et je disais que vous étiez à nos côtés. En réalité, vous êtes à Montpellier dans les studios de France Bleu Hérault et nous les remercions chaleureusement de vous accueillir ce matin pour cette émission. Bénédicte Pivot, puisqu'on va parler tout au long de cette émission des langues qui sont menacées de disparaître, comment est-ce qu'on mesure objectivement qu'une langue est en danger? Quels sont les critères qui permettent de dire, ben voilà, telle langue, on peut estimer que dans les années à venir, elle risque de s'éteindre?
Ah, vous posez d'emblée une question difficile à laquelle les réponses sont multiples. Mesurer objectivement le déclin d'une langue est, par exemple, un des travaux auxquels s'est attelé l'UNESCO. Hein, si vous regardez le travail qu'a fait l'UNESCO, le groupe d'experts de l'UNESCO, dont l'Atlas des langues en danger qu'on peut consulter en ligne, on voit en fait qu'il y a un certain nombre de critères qui ont été proposés, qu'on appelle les critères de vitalité. qui permettent de mesurer, non pas objectivement, mais en tout cas d'avoir un ordre d'idée de la situation des langues en danger et de leur situation de disparition. Voilà. Alors, c'est parmi les critères de vitalité, on s'intéresse en partie, par exemple, au nombre de locuteurs, même si la notion de locuteur est une notion un petit peu difficile aussi à définir, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par locuteur d'une langue. Est-ce que c'est quelqu'un qui en a une maîtrise totale et parfaite, ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'exprimer sur certains points dans certains domaines, ou qui a une connaissance, par exemple, spécifique, on pourrait dire, par exemple, une connaissance religieuse ou de pratiques culturelles, à qui ne resterait que ce lexique-là, mais s'il est le seul à avoir ce lexique, il est considéré comme locuteur. Donc il y a une question de locuteur.
Et sur les locuteurs, sur les locuteurs justement, Bénédicte Pivot, à partir de combien de locuteurs est-ce qu'on estime qu'une langue va avoir de la difficulté à se transmettre ? Est-ce que c'est 30 locuteurs ? Est-ce que c'est 1000 locuteurs ? Pour avoir un ordre d'idée.
Ouais, encore une fois, c'est tout est relatif, parce que ça va dépendre de la manière dont ce groupe de locuteurs fonctionne avec les langues en contact et avec les populations dominantes avec lesquelles ils sont en contact. S'ils restent, disons, sans locuteurs, mais que ces locuteurs-là gardent la transmission, ont à cœur de continuer à transmettre leur langue à leurs enfants, tant qu'il y a transmission aux générations futures, je dirais que la langue est moins menacée que une population même de 50 000 ou de 100 000 locuteurs qui subit une forte pression d'une langue en contact dominante par la scolarisation, par exemple, ou parce que c'est la langue de la colonisation, et qui rapidement, d'une génération à l'autre, va abandonner la transmission de sa langue. Et donc on peut se retrouver avec une langue de 100 000 locuteurs probablement plus en danger qu'une langue où il y a peut-être encore 100, 200 ou 300 locuteurs qui ont à cœur de transmettre leur langue.
Et c'est là qu'on voit que c'est un sujet complexe, effectivement.
Exactement. En fait, la question des critères pour évaluer la mise en danger, elle doit se prendre, je dirais, par plusieurs paramètres. Et c'est des paramètres qu'il faut croiser avec cette idée que, par exemple, il y a aussi la question de la documentation. Est-ce que la langue qui est en train de, je dirais, de disparaître, ça veut dire qu'elle n'est plus parlée, qu'elle n'est plus transmise. C'est ça, disparaître. Hein, c'est ne plus être transmise.
Et ça veut dire qu'on peut en garder quand même une trace par des enregistrements, exactement, ou par des écrits. Hein, c'est ça qu'on.
Eh ben exactement. Et la documentation joue un rôle important dans cette idée de menace qui pèse sur les langues. Une langue qui n'aura pas été documentée, qui aura donc pas d'enregistrement. Alors vous pensez bien que on n'a pas d'enregistrement des langues qui étaient parlées il y a 150 ans ou 200 ans, donc qui auraient disparu depuis. Mais donc actuellement, on peut documenter ces langues, on peut les enregistrer, on peut enregistrer des locuteurs, ou alors retrouver des traces écrites pour des langues qui auraient été écrites ou qui auraient été transcrites. C'est pas la même menace, si tant est qu'on puisse le parler comme ça, mais c'est pas la même menace qui pèse sur des langues qui auraient de la documentation que sur des langues qui en ont pas. De même que parmi les autres critères de vitalité, on a aussi ce qui va relever des attitudes des locuteurs vis-à-vis de leur langue. Est-ce que ces personnes-là ont à cœur peut-être de la revitaliser, si on veut utiliser le mot tout de suite, mais en tout cas de la sauver ou pas. Est-ce qu'ils ont une attitude positive vis-à-vis de leur langue, ou est-ce que au contraire ils la dénigrent et n'ont qu'une envie, c'est finalement d'arrêter de la parler, d'abandonner de la parler.
Et on voit bien, vous l'expliquez, que juste le fait de mesurer si une langue est en danger est plus complexe qu'il n'y paraît. L'UNESCO alerte encore récemment sur le fait que donc 2680 langues autochtones seraient en danger dans le monde. Il y a donc une préoccupation particulière sur les langues autochtones. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous éclairer sur ce qu'est une langue autochtone et est-ce qu'elles sont plus vulnérables que les autres ?
Alors, oui, une langue autochtone est plus vulnérable que les autres parce que c'est pas la langue, ici en l'occurrence, qui est vulnérable, c'est la population. Une langue, elle existe ou elle appartient ou elle, enfin, elle existe parce qu'il y a des locuteurs qui la parlent. Donc, si les locuteurs disparaissent, les langues disparaissent. Il se trouve que un peuple autochtone, c'est un peuple qui est défini selon les critères de l'UNESCO comme étant le peuple qui existait sur les territoires avant qu'un autre peuple dominant vienne les coloniser. Ces peuples autochtones sont estimés toujours par l'UNESCO à environ 5000 sur la planète, 5000 groupes sur la planète. Il se trouve que sur les à peu près 7000 langues qu'il y aurait dans le monde, vous faites vite le calcul, la majorité de ces langues-là sont parlées par les peuples autochtones. Et donc un peuple autochtone, c'est un peuple qui subit la domination. Alors elle peut être politique, sociale, économique, d'un autre peuple qui est venu s'installer sur son territoire, qui lui impose parfois sa culture, sa manière de faire, et puis très souvent sa langue. Et pour pouvoir continuer à parler la langue autochtone, c'est des luttes qui sont, socialement violentes, qui peuvent avoir été abandonnées ou en tout cas... délaissé au profit d'une pratique de la langue du dominant parce que c'est la langue de l'école ou parce que c'est la langue de la société. Voilà, donc ces langues-là, oui, les langues autochtones sont les langues les plus menacées parce que les sociétés autochtones sont les plus menacées, oui.
Et ce phénomène de domination sur les langues autochtones, et on le comprend donc derrière sur la population autochtone, est-ce que on peut dire aujourd'hui qu'il y a une accélération de ce phénomène et donc derrière une accélération de la perte de diversité des langues à travers la planète, puisque c'est précisément là-dessus que alerte l'UNESCO, elle parle d'une accélération du phénomène. Est-ce que vous partagez ce constat?
Alors, je pense qu'il est difficile de le nier. Ça ne veut pas dire pour autant que ce phénomène de disparition, puis de domination et d'extinction des langues par le fait de la domination des peuples sur les autres, soit un phénomène récent. De tout temps, des peuples en ont soumis d'autres et entre autres leur ont imposé leur langue. Donc il y a des langues qui ont disparu. Mais ce qui est assez frappant à l'époque moderne. C'est l'accélération de cette domination, probablement liée à l'accélération des phénomènes de la mondialisation. Encore une fois, la mondialisation, c'est pas un phénomène nouveau, mais l'accélération de la dynamique des échanges, la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut accéder à toutes les informations sur Internet, et même les peuples autochtones ont accès, aux nouvelles technologies, en tout cas pour la majorité d'entre eux. Sont des mécanismes, qui augmentent le risque qui pèse sur la disparition des langues et qui en tout cas augmentent le côté assez flagrant du rapport de force.
Et vous l'avez rappelé, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des disparitions de langues. On ne s'en apercevait pas, ou en tout cas, on ne s'en préoccupait peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que, alors je crois que c'est à peu près depuis les années 90 que la sauvegarde des langues est devenue un sujet de préoccupation, en tout cas au niveau international. Pourquoi cette bascule dans les années 90?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments concomitants, sociaux, puisque encore une fois, la question de, linguistique est une question sociale, une question humaine. L'analyse que j'ai faite en étudiant le cas, par exemple, de la langue Rama au Nicaragua, c'est que les choses apparaissent à un moment donné dans l'histoire pour des raisons historiques, en fait. Pourquoi on s'intéresse effectivement à un moment donné à ces questions de langue? En fait, c'est parce qu'on s'est intéressé surtout aux questions autochtones, aux questions indigènes. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, quand même, je pense que le monde occidental, en tout cas, avait été profondément ébranlé par euh, par le massacre de la Seconde Guerre mondiale, par la violence qui avait été faite à un peuple. Et c'est développé dans la conscience internationale, dans les instances comme les Nations Unies, une préoccupation de ces peuples autochtones, des peuples dans un premier temps, puis des peuples autochtones dans un deuxième temps, dans leur identité, puis aussi dans leurs droits fondamentaux. Et en 1957, par exemple, l'Organisation internationale du travail, qui propose en fait, qui est un instrument un petit peu juridique international, a fait une convention, qui est la convention 107, qui est consacrée aux droits des peuples indigènes. C'est le premier instrument international de reconnaissance, enfin, qui pose la question des droits indigènes. Et en fait, dans la poursuite de ces années-là, dans les années 1970, il y a l'émergence du mouvement indigène en Amérique du Sud qui réclame dans un premier temps la révision de cette convention, mais qui demande aussi l'abandon de toute logique d'assimilation. Et dans ces mouvements qui vont émerger dans les années 70-80 en Amérique du Sud, donc de contestation, enfin de réclamation de droits indigènes, on a un certain nombre de revendications autour de la reconnaissance de leurs droits territoriaux pour pouvoir exploiter les terres, par exemple, puisqu'ils avaient été quand même spoliés des terres par la colonisation. Et vers 1982, je crois, il y a un groupe de travail des Nations Unies sur les droits de l'homme qui commence à réfléchir à ces questions de droits autochtones. Et c'est ce groupe de travail qui va donner la naissance, en fait, qui va travailler à la convention qui va être votée en 2007 à l'ONU sur la déclaration des droits des peuples indigènes. Donc vous voyez, entre 82 et 2007, il y a plus de pratiquement 30 ans de réflexion autour de cette question des droits indigènes. Et dans la question des droits indigènes, se pose la question de comment on va définir qui est un indigène. Parce que ça, c'est important. Je veux revendiquer des droits, mais comment est-ce que je peux me définir comme un indigène? Alors, il y a la question de comment moi je me définis comme un indigène, mais il y a la question de comment les autres me définissent.
Et c'est là que la langue va jouer un rôle central pour pouvoir revendiquer une identité indigène. C'est peut-être le moment de venir à votre sujet d'étude principal, Bénédicte Pivot. C'est le cas de la langue Rama au Nicaragua. C'est une langue autochtone qui était pratiquée sur le territoire avant l'arrivée des Espagnols. Et ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est vous expliquer que cette langue était dévalorisée, elle-même abandonnée par les locuteurs eux-mêmes, les autochtones eux-mêmes, qu'elle était même presque plus parlée. Et puis que dans les années 80, elle va devenir un sujet de préoccupation, de revendication. On veut la sauvegarder. Comment s'opère cette bascule? Pourquoi tout d'un coup une langue qui n'était pas légitime devient un objet de revendication?
Eh ben exactement pour les raisons pour la poursuite des explications que je vous donnais sur le contexte social dans lequel cette revendication va pouvoir en fait émerger. C'est-à-dire qu'effectivement, donc les Ramas à l'époque, donc dans les années 80, les Ramas vivent dans la zone sud de la côte atlantique du Nicaragua, dans la forêt primaire. Ils vivent essentiellement sur une petite île dans un lagon qui est le lagon de Bluefield. On compterait environ 1000-1500 Ramas à l'époque. Entre la communauté principale sur l'île de Ramaki et puis dans la forêt répartie dans des villages le long des rivières. De cette population donc dans les années 80, cette population a abandonné la pratique de leur langue ethnique qui est donc le Rama au profit, et ce depuis pratiquement deux générations, au profit d'une variété du Mosquito Coast Creole, qui est un créole à base anglaise qui est parlé par la population dominante de la côte atlantique. Donc ils parlent cette langue parce qu'ils ont été évangélisés par des missionnaires moraves qui, dans le processus d'évangélisation, leur ont surtout enseigné le mosquito. Enfin, leur ont fait croire que la langue qu'ils parlaient était une langue de sauvage, hein, qu'ils appelaient the tiger language. D'ailleurs, c'était la preuve que c'était une langue de sauvage, c'est que ça faisait le même son que le hurlement du tigre dans la jungle. Donc, c'était bien la preuve que c'était pas une langue. Et puis que, bien entendu, pour pouvoir parler à Dieu, il fallait utiliser une langue propre de ce nom, enfin digne de ce nom, que Dieu pouvait entendre. Et c'était, en l'occurrence, le Miskito Coast Creole. Donc, voilà pourquoi ils avaient arrêté de parler leur langue. On, petit à petit, quand on vous répète tous les jours que vous parlez une langue de sauvage et que pour pouvoir être civilisé et évangélisé, il faut que vous parliez une langue digne de ce nom, on finit par le croire. Et donc, ils avaient abandonné. En plus, ils étaient ils étaient très évangélisés. Donc, pour aller à l'église et pour suivre le sermon, il fallait pouvoir parler le Miskito Coast Creole.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans l'histoire de ce peuple, il y a un retour aux sources quelque part et à nouveau une valorisation de cette langue rama qui n'était presque plus parlée et qui, d'ailleurs, a posé pas mal de problèmes de transmission puisqu'on manquait de locuteurs natifs qui étaient capables de transmettre vraiment massivement, correctement cette langue aux jeunes.
Eh ben, il faut une guerre civile. Dans la fin des années 70, le Nicaragua vit une guerre civile qui oppose les sandinistes à la Contra. La Contra étant particulièrement positionnée sur la côte atlantique. Bon, les Ramas sont pris au milieu d'enjeux qui les dépassent, utilisés entre autres par d'autres. Mais dans le processus de négociation de paix qui se met en place au début des années 80, l'argument en fait pour pouvoir apporter les populations qui étaient contre les sandinistes, c'est entre autres la reconnaissance des droits indigènes, parce que dans une partie de la Contra était soutenue par les Miskito, qui est aussi un peuple autochtone qui vit dans le nord de la côte atlantique du Nicaragua. Donc le gouvernement convoque tous les peuples autochtones, puisqu'il ne pouvait pas convoquer seulement les Miskito. Donc tous les peuples autochtones sont convoqués à cette table de négociation pour la paix. Et parmi les peuples autochtones, il y a donc les Ramas. Donc le chef Rama va à Managua pour discuter. Et puis dans la table des négociations, il se lève et il se rend compte que son discours de présentation de son groupe, il ne peut le faire que en créole, en Miskito Coast Creole, c'est-à-dire, comme il dit, dans la langue des autres. Et il demande à ce moment-là au gouvernement de les aider à sauver, salvar la lengua. Donc sauver la langue rama, et c'est donc cette situation de crise qui est négociée socialement et politiquement, que tout d'un coup, tout ce qui va avoir trait aux caractéristiques autochtones, aux caractéristiques de l'existence et de la reconnaissance, parce que ça va être ça en fait l'enjeu, c'est de faire reconnaître l'existence des peuples autochtones dans un pays colonisé dont la langue officielle est l'espagnol. C'est énorme que de faire reconnaître qu'il y a des Indiens au Nicaragua. Et en fait, ça va se créer dans cette reconnaissance. Et parmi les attributs, il y a deux attributs fondamentaux qui vont être discutés dans ces négociations. C'est un, le territoire sur lequel ils existent. Ils ont des pratiques anciennes et traditionnelles. Et deux, ils ne seront reconnus comme peuple autochtone que s'ils ont une langue.
Et c'est là qu'on voit que l'enjeu, comme vous le dites, de pouvoir avoir accès à l'autodétermination, à l'autogestion, avoir des revendications territoriales, elle va s'appuyer très fortement sur cette langue qu'il va s'agir de faire renaître, en tout cas revitaliser. Est-ce que ça veut dire qu'à l'origine, quelque part, il n'y avait pas de réelles revendications linguistiques de la part de la population, pas un réel désir de se mettre à parler la langue de leurs ancêtres, mais c'était plutôt, on peut le dire comme ça, presque une instrumentalisation, un usage de la langue pour faire valoir des revendications sociales, territoriales plus larges.
Ben c'est exactement ça, oui. C'est triste à dire, mais oui. Alors, à l'époque, en 1980, on ne peut pas dire que la population de la communauté Rama avait une intention de revitaliser sa langue. C'est-à-dire que la majorité des Ramas ne parlaient plus. Beaucoup d'enfants Ramas ne savaient même pas qu'il existait une langue ethnique. Et ceux qui en connaissaient l'existence la dénigraient tellement qu'ils en dénigraient aussi les locuteurs. C'est-à-dire que les locuteurs étaient vraiment les locuteurs de Rama, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns. C'était en général ceux qui vivaient au fin fond de la jungle, et c'était vraiment les chiens des chiens de la communauté. Donc les parents très pauvres plutôt de la communauté, plutôt que d'utiliser cette terminologie un peu dégradante. Mais voilà, donc c'était dans la structure sociale de la communauté Rama, le locuteur du Rama était vraiment tout en bas de la structure sociale. Et donc, il n'y avait pas de volonté de revitaliser, mais il n'y avait pas de volonté du tout, à ce moment-là, en tout cas communautaire, de sauver la langue ou de faire quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un contexte favorable qui va complètement modifier la perspective de à quoi sert finalement, à quoi va leur servir cette langue. Et encore, hein, ça se fera pas en un an, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a le chef est allé demander ça et que le gouvernement va demander à une linguiste de venir, donc qui est Colette Craig Greenwald, de venir revitaliser la langue. C'est pas parce qu'elle va venir et qu'elle va faire une grammaire que pour autant les Ramas vont tout de suite vouloir reparler la langue, et deux vont changer d'attitude. Il va falloir presque 20 ans pour que de travaux, enfin de travail plutôt sur la langue avec la communauté, avec entre autres une femme formidable qui était Miss Nora, qui était donc une membre Rama, qui elle, oui, avait une conscience que la langue était un outil important. Elle disait de la langue, they make me people, c'est-à-dire que ça les rend humains, ça les rend hommes, peuple. Donc voilà, c'était la seule quelque part qui avait cette vision que la langue était importante. Et il va falloir 20 ans de travaux, de travail auprès de la communauté pour que aujourd'hui, ce soit les membres de la communauté qui se saisissent seuls de cette question linguistique. Mais sans le contexte historique, social, il y aurait probablement pas eu de désir de revitalisation.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon. À la recherche de la langue perdue, c'est notre sujet ce matin et on en discute avec Bénédicte Pivot, sociolinguiste, maîtresse de conférences à l'université Paul-Valéry de Montpellier 3 et membre du laboratoire d'Ipralangue. Vous avez prononcé le mot Bénédicte Pivot, celui de la revitalisation des langues. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement, justement, quand on met en place un programme, alors que ce soit pour les Ramas au Nicaragua, mais on peut aussi évoquer d'autres exemples, quand on met en place des programmes, donc dits de revitalisation pour faire renaître une langue, ça passe par quoi concrètement? Est-ce que ça passe notamment par la mise à l'écrit de langues qui très souvent sont des langues orales?
Oui, alors très souvent ça passe par là. Pour une raison, je dirais, relativement simple, c'est que bien souvent la revitalisation, elle est pensée donc en termes de transmission aux jeunes générations, puisque le problème d'une langue en danger, c'est qu'elle n'est plus parlée par les jeunes et donc elle n'est plus transmise aux jeunes, et que le lieu par excellence où on imagine pouvoir transmettre quelque chose à des jeunes, c'est l'école. Donc la majorité des programmes de revitalisation sont pensés à travers le canal de la scolarité, de la scolarisation. Et puis, ben voilà, le modèle de l'école est fait de telle manière qu'on n'imagine pas enseigner quelque chose sans un support écrit.
Et alors, cette question de l'école, effectivement, elle est fondamentale. Mais donc, est-ce que ça veut dire qu'on change complètement les manuels scolaires, qu'on bascule totalement, donc par exemple, de l'espagnol au Rama dans les langues? Et ce qui veut dire peut-être au risque d'exclure les populations qui vont du coup apprendre toutes les matières en Rama, bah, de les exclure de la langue vernaculaire, enfin de la langue qui est pratiquée au quotidien dans le reste du pays?
Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la majorité des cas. Bon, alors, pour le Rama, c'est clair que non, ça peut pas se passer comme ça, puisque de toute façon, il n'y a pas la connaissance, pour l'instant, suffisante, hein, pour pouvoir enseigner d'autres matières que la langue Rama en Rama. Non pas que le Rama soit pas une langue capable de le faire, hein, mais pour l'instant, en tout cas, le matériel, enfin le locuteur, puisqu'il faut quand même un locuteur pour enseigner, ou quelqu'un qui maîtrise la langue, ou les ressources suffisantes n'existent pas. mais dans des langues qui seraient à plus forte vitalité et où il y aurait encore des locuteurs qui pourraient enseigner dans les classes, ou même, je dirais, du matériel qui aurait été produit. La question de l'enseignement des langues autochtones dans les écoles est une question très discutée et très problématique. Hein, on peut parler des programmes de l'UNESCO, par exemple, sur l'encouragement à l'enseignement bilingue ou l'encouragement à l'enseignement des langues autochtones, par exemple, en Afrique, hein, sur les langues nationales. Qui pose des gros problèmes de didactique et de pédagogie, pour ne pas dire des problèmes idéologiques, effectivement, sur quelle matière, est-ce que c'est des langues d'enseignement ou des langues médiums, enfin, oui, ça résout pas le problème de la place de la langue dans la société et encore pas moins la place de la langue dans les écoles. Ouais, c'est la revitalisation par l'école est problématique.
Et Bénédicte Pivot, de manière générale, est-ce qu'on préserve une langue comme on préserverait un monument historique ou bien un tout autre patrimoine culturel ? Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à quel point une langue peut rentrer dans une logique de patrimonialisation ?
Alors, aujourd'hui, on est encore de nouveau dans un contexte social et politique au niveau international qui rend votre question tout à fait pertinente et complètement d'actualité, puisque le patrimoine culturel immatériel, hein, qui a été voté en 2003 à l'ONU, inclut donc effectivement dans le patrimoine international ou universel à protéger les traditions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel. Et donc effectivement, la question de la patrimonialisation des langues se pose de manière relativement importante aujourd'hui, surtout pour le cas des langues en danger, puisque cette volonté de préservation de la diversité qui fait que beaucoup de langues sont aujourd'hui documentées pose la question de jusqu'à quel point on va faire de ces objets finalement, puisque ça devient des objets de patrimoine, surtout pour les langues très 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 en danger qui n'ont peut-être plus vocation à être parlées et qui resteraient peut-être dans un musée ou au contraire un symbole d'existence ou un symbole d'identité culturelle, puisque ça on le reconnaît, voilà, que les peuples autochtones pourraient afficher pour se distinguer, oui.
Et restez avec nous, Bénédicte Pivot, tout de suite direction le Tibet. Voilà quelques mots en tibétain qu'on a choisi de ne pas traduire pour entendre cette langue. Hier, dimanche 17 mars, les Tibétains commémoraient les 60 ans de la fuite du Dalai Lama, leur chef spirituel et politique, suite à l'invasion chinoise de leur territoire. Le Tibet est désormais une partie intégrante de la Chine et fait l'objet depuis 59 d'une politique de colonisation qui s'exerce notamment sur les langues locales. Pourtant, malgré les interdictions et malgré l'appauvrissement de la diversité des dialectes tibétains, cette langue est encore pratiquée aujourd'hui par 6 millions de personnes au Tibet et dans la diaspora. Et il se pourrait que la situation s'améliore dans les années à venir, notamment grâce à Internet. Pour en parler, un nouvel invité nous a rejoint par téléphone. Bonjour Nicolas Tournade.
Bonjour.
Vous êtes linguiste, professeur à l'université Aix-Marseille et membre du LACITO, le laboratoire des langues et civilisations à tradition orale au CNRS. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être que la domination culturelle de la Chine sur le Tibet s'est effectivement exercée notamment via les langues? Et est-ce que vous pouvez peut-être nous dire concrètement comment elle s'est exercée? Est-ce que ça a été par l'interdiction tout simplement de la transmission, de l'enseignement par le tibétain sur le territoire occupé?
Oui, alors non, c'est beaucoup plus subtil que cela. D'abord, je voudrais faire juste un tout petit préambule sur les facteurs de la maintenance, avant de répondre directement à votre question, ça me paraît important de faire ce point-là, parce que en dehors du nombre de locuteurs qui a été déjà mentionné, il existe la standardisation, et vous allez comprendre pourquoi c'est important de le dire là, car quand il existe une langue émiettée en divers dialectes, voire des variétés qui ne permettent absolument pas d'intercompréhension, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. L'existence d'une langue écrite, si possible ancienne, avec une grande production littéraire et scientifique, ça c'est encore mieux, l'existence de médias audiovisuels, l'existence d'un enseignement dans la langue, et à l'université si ça peut exister, ou à l'école, ou même à l'école primaire. Et puis, j'ai pas mentionné bien entendu le statut politique ou économique, et l'existence d'une identité forte, d'une religion forte, ou d'une culture forte, si... Voilà. Donc tout ça, c'était en préambule pour répondre à votre question.
Et en l'occurrence, Nicolas Tournade, tous les critères que vous venez de nous citer à l'instant étaient présents pour les langues tibétiques.
Voilà. Alors, la plupart sont présents, mais là encore, c'est compliqué. Quand on dit tibétain, ça n'existe pas, si vous voulez, du point de vue linguistique. Il y a une grande langue littéraire qui est le tibétain littéraire, qu'on appelle Puyik, qui a 1200 ans d'existence et qui est une langue qui fait partie des grandes langues d'Asie, à côté du sanskrit, à côté du chinois, à côté du japonais, n'est-ce pas, qui a une littérature fantastique. Au Tibet, j'ai eu la chance, et je pourrais vous en parler très brièvement, mais de faire des terrains depuis 35 ans, donc du côté chinois, mais aussi du côté indien, où j'ai beaucoup séjourné, népalais, bhoutanais, voilà, si vous voulez, je peux comparer d'ailleurs les situations politiques entre ces différentes régions.
Donc, revenir un peu droit à la discussion, Nicolas Tournade, ce qui est important de rappeler, c'est que, vous l'avez dit, au Tibet, il y a une très grande diversité de linguistique. Et donc, depuis le temps que vous faites des terrains sur place, vous avez constaté que cette diversité, donc pas le tibétain, mais les langues tibétiques, s'est considérablement appauvrie.
C'est ça, c'est-à-dire, si vous voulez, vous avez une dizaine de grandes langues, si on peut dire, mais parmi ces grandes langues, il y a le tibétain commun, qu'on appelle tchiké, qui se porte assez bien. Son statut politique est ambivalent, puisqu'il est reconnu comme langue officielle, mais vous savez, l'officialisation, c'est comme la loi, les textes, est-ce que c'est appliqué ou non. Il y a des langues qui n'ont pas de statut juridique et qui se portent très bien, et des langues qui ont un statut juridique et c'est purement formel, donc ça ne dit pas grand-chose. Donc le tibétain commun se porte bien. L'amdo est une langue parlée par plus d'un million de personnes au Tibet, le Tibet oriental, se porte bien également. Il y a une très forte identité culturelle. Ces langues ne sont pas menacées. Les langues du Kham, c'est-à-dire de troisième région au Tibet très importante, il y a environ 8 langues qui ne permettent pas d'intercompréhension entre elles. C'est vous dire la diversité, bien qu'elles soient toutes dérivées d'une même langue qui est le vieux tibétain, exactement comme toutes les langues romanes sont dérivées du latin. Eh bien, ces langues du Kham, elles sont franchement menacées. Donc, du point de vue du Tibet, donc de la partie qui se trouve administrée par la Chine actuellement.
Alors revenons, si vous voulez, aux causes de cet appauvrissement de la diversité et de la disparition de certains dialectes. On avait commencé à évoquer donc la présence ou la domination culturelle chinoise sur le territoire. Vous disiez que ça s'est exercé de manière assez subtile.
Oui, alors il y a des choses subtiles, il y en a qui le sont moins. Subtilement, ça veut dire qu'évidemment la langue qui est absolument ultra dominante, c'est le mandarin, le putonghua, qui est la langue de la République populaire de Chine. Donc c'est dans les institutions, dans l'ensemble des institutions, dans l'espace public, c'est le chinois qui domine. Et depuis Xi Jinping, le président chinois, la situation s'est encore détériorée, car il y a eu une période d'ouverture. C'est grâce à cette période-là que j'ai pu faire des terrains dans l'ensemble du Tibet. J'ai eu énormément de chance à cette époque-là. Ça s'est fermé après, 2008, et les Jeux Olympiques ont été catastrophiques à cet égard, et la situation n'a cessé de s'appauvrir. Donc, il y a, si vous voulez, des écoles primaires, qui sont permises, etc. Mais plus on progresse dans le cursus, plus le chinois devient ultra dominant. Et le problème, c'est que les gens, même s'ils ils avancent dans le cursus éventuellement, et s'ils arrivent à obtenir un certain niveau en tibétain littéraire, ils ne sont absolument pas, ils n'ont aucune garantie d'obtenir un travail, des postes, etc. Donc l'aspect économique est toujours un aspect très important également, si vous voulez.
C'est-à-dire que la jeunesse tibétaine, si elle veut avoir une chance de s'en sortir, on comprend bien, a tout intérêt à apprendre plutôt le mandarin. Il y a un phénomène que vous décrivez, Nicolas Tournade, qui est celui du mélange tibétain-chinois, une langue métisse qui apparaît, et on dit sur place parler mi-chèvre, mi-mouton.
Oui, c'est ça, le Ramalouké. Alors le Ramalouké a du plomb dans l'aile, si je puis me permettre, parce que précisément, grâce aux nouvelles technologies, j'en parle dans un de mes articles que l'on avait présenté au Sénat il y a quelques années, il y a en réalité une exploitation extraordinaire. Le Tibétain est chanceux parce qu'il se trouve entre deux grandes civilisations, la civilisation chinoise et la civilisation indienne, et il bénéficie de gens qui sont tout à fait experts en informatique. Du coup, les Tibétains font partie, c'est pratiquement un cas unique dans l'histoire, où ils sont passés directement de la xylographie, de la gravure sur bois pour imprimer les textes, à l'impression par Internet et à la diffusion grâce à Unicode de la langue. Et ça, c'est absolument extraordinaire comme développement technologique.
Est-ce que ça veut dire, Nicolas Tournade, que grâce à Internet, grâce à cet Unicode qui permet aujourd'hui donc de discuter, lire, échanger en tibétain sur le numérique, est-ce que ça veut dire que les langues tibétaines ne sont plus en danger, ou en tout cas moins en danger?
Alors, sur la dizaine de langues majeures, les langues du Kham en Chine sont sur la partie tibétaine elle-même sont en danger, et d'autres langues qui sont encore moins connues, le Charkok et d'autres, sont tout à fait en danger. Pour ce qui est du Népal et de l'Inde, les langues tibétiques sont très très proches pour certaines du tibétain central. Certaines sont également en danger. Le Sherpa, qui est assez connu, mentionnons-le, est tout à fait en danger au Népal. Au Bhoutan, la langue nationale du Bhoutan, le Dzongkha, qui est une langue tibétique tout à fait dérivée du vieux tibétain, bien que le Bhoutan soit un pays indépendant, la politique linguistique n'a pas été très très bonne, et malheureusement le Dzongkha est menacé. Et en Inde, où j'étais encore dans l'Himalaya indien récemment, le Ladakhi n'a pas un statut encore une fois officiel, et souffre de cela. Et tant que vous n'avez pas de statut officiel, et bien qu'il soit écrit, il y a un certain nombre de publications, mais ce n'est pas, disons, très très développé actuellement. Donc vous avez sur la famille, grosso modo, des 10 langues, 2 ou 3 langues qui se maintiennent bien, mais les autres sont dans de grandes difficultés. Est-ce que je puis me permettre de faire une comparaison avec d'autres langues?
Alors on arrive au bout de l'interview, j'allais vous remercier, je suis désolée. Nicolas Tour...
Juste un point. Très
rapidement.
Avec la France, on va chercher très loin. La politique, évidemment, en Chine, l'autoritarisme est absolument effarant. Mais en France, vous voyez, on a une langue qui est, par exemple, l'euskara, la langue basque. Les Ouchkara parlaient, n'est-ce pas, avant les Grecs, avant les Latins, etc., avec 700 000 locuteurs, toujours pas reconnus officiellement en France, n'est-ce pas? Eh bien, on a une politique de négationnisme, véritablement, puisque le Ouchkara est plus proche encore du japonais ou du tibétain que du français. Eh bien ça, les francophones ne le savent pas. Les Euskaldunak, les bascophones le savent, et ils se battent, et c'est miraculeux que ce soit maintenu. Alors la politique linguistique, certes, en Chine est catastrophique, en Inde elle n'est pas bonne, en Russie où j'ai travaillé, ou au Tadjikistan où je travaille aussi, elle n'est pas bonne non plus, parce que beaucoup de langues sont menacées, les langues du Pamir sont menacées, mais il faut balayer chez nous. nous.
On sait, Nicolas Tournade, et effectivement que la France n'a peut-être pas de leçon à donner sur la question de la préservation des langues locales. Merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle, linguiste, professeur à l'université, ex-Marseille et membre du Lacito. Tout de suite, on retrouve un nouvel invité. Il s'agit d'un cinéaste documentariste qui s'est lui aussi intéressé à ces langues en voie de disparition au Canada, cette fois, où 2/3 des 90 langues autochtones parlées seraient menacées, toujours selon l'UNESCO. Il s'agit de Simon Plouffe, réalisateur du film « Ceux qui viendront l'entendront », un très beau documentaire sorti en 2017 qui a reçu le prix du jury au festival d'Ann Arbor en 2018. L'auteur y suit la vie de ses locuteurs de langues autochtones. On l'écoute au micro de Samuel Bernard.
La langue en tant que telle est difficile. Même pour ceux qui la comprennent très bien, ça peut leur arriver de ne pas comprendre ce que tu veux leur dire. Il y a différents dialectes. Ceux de mon âge utilisent encore les vieux mots de l'ancien temps. Aujourd'hui, les jeunes ont de la difficulté à comprendre la façon dont je parle.
Alors voilà, Simon Plouffe, là on est dans une scène de votre film que qu'on vient d'entendre et qui se déroule dans un lieu qui est assez récurrent dans votre documentaire. C'est le studio d'une petite station de radio locale, et on y voit deux personnes, donc l'animatrice qui est derrière son micro avec sa table de mixage, et donc ce vieil homme qui s'exprime donc en langue innue, qui est donc une langue parlée à l'est du Canada par environ 11 000 personnes. Quel est le rôle de la radio, en l'occurrence au Québec, dans le travail de revitalisation de ces langues local?
Oui, en fait, c'est ça. La radio communautaire a un très grand rôle dans les communautés autochtones, puisqu'elle a comme outil, c'est un outil qui est bidirectionnel. Donc, on peut téléphoner, laisser des messages, parler en direct. C'est un outil encore plus, je dirais, quasiment plus puissant et plus direct que les réseaux sociaux pour les communautés autochtones, étant donné également que c'est des langues de tradition orale. Donc, c'est une façon aussi de maintenir la langue active, vivante.
Il y a combien de radios en langue autochtone au Québec? C'est un phénomène qui est assez particulier ou qui est assez diffus, assez global?
C'est assez global, oui, c'est très répandu. Je dirais dans toutes les communautés autochtones au Québec, il y a une radio. Donc, il y a un consortium qui s'appelle la SOCAM qui regroupe aussi des radios autochtones Atikamekw et Innu, ce qui est peut-être la majorité des radios, mais il y en a également dans d'autres communautés, les communautés Mohawk, les communautés Inuit, les communautés Atikamekw, donc partout au Québec également. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de très répandu et de très utilisé là, chez les communautés.
Alors là, c'est une autre scène qui se déroule, cette fois dans une église évangélique, et on voit trois femmes qu'on entend chanter et qui sont couvertes donc d'une chasuble, et elles lisent un texte qui est projeté contre un mur et qui est écrit dans une langue qui est elle très éloignée du latin, cet alphabet qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout dans votre film, sur des panneaux, dans les salles de classe, sur les bibles qui sont lues par les fidèles. Alors si on a choisi ce moment du film en particulier, Simon Plouffe, c'est parce que justement il y a un lien très étroits qui existent entre l'Église évangélique et l'origine de cet alphabet. Est-ce que vous pourriez nous raconter son histoire?
Oui, effectivement, c'est une langue qui a été en fait transcrite par les missionnaires anglicains, si ma mémoire est bonne, au début des années, des années 1880. Par justement pour endoctriner les populations autochtones. Donc c'était principalement pour traduire les écrits bibliques pour pouvoir finalement que les gens autochtones puissent adhérer à cette religion-là et laisser la leur derrière. Donc laisser leur tradition, laisser leur langue également, puis pour pouvoir effectivement les attirer dans les églises. Et c'était la manière qui a été traduite en une sorte de syllabique. C'est une syllabique qui fonctionne beaucoup par des sons, qui est quand même assez facilement reconnaissable et qui concerne quelques sons et qui est assez simple finalement à apprendre pour également des gens qui n'ont pas de système graphique, là.
Alors c'est vrai que j'ai vu que c'était le syllabaire Inuktitut qui a été pensé donc par les missionnaires moraves au Groenland et au Labrador qui étaient venus vers le milieu du XVIIIe siècle. Et depuis 1976, la commission linguistique de l'Institut culturel inuit considère le syllabaire comme le système d'écriture officiel hein, pour les langues inuites avec l'alphabet latin. Et en fait, ce qui est assez étonnant finalement, Simon Plouffe, c'est que l'Église évangélique, qui est la première institution à avoir finalement désocialisé ses populations, lui a paradoxalement donné un outil aussi utile pour protéger son identité.
Oui, effectivement. Puis ça l'a créé comme un sentiment d'appartenance très fort chez ces populations-là. C'est une écriture qui a été d'abord inscrite pour les, en fait, créée pour les communautés cries. Donc, ça se retrouve chez les cris, chez les Inuits et chez les Ojibwés et également chez les Naskapis. Puis, il s'avère que c'est les langues qui se portent le mieux au Canada en ce moment. Les trois ou quatre langues qui se portent le mieux. Puisque ça l'a créé comme une espèce de système d'écriture un peu plus hermétique, on va dire, pour les populations locales. Donc, ce qui fait que les gens de l'extérieur ne comprennent pas d'emblée ce système d'écriture, et ça l'a créé comme une fierté, en fait, alentour de ces écrits-là. Malheureusement, il n'y a pas énormément d'écrits dans cette écriture-là syllabique, mais quand même, les populations du Nord, chez les Inuits, entre autres, ils ont quand même des dictionnaires et quelques écrits, et donc c'est ça, c'est en évolution, effectivement.
Troisième et dernière séquence de votre film qu'on a choisi. Là, on a volontairement décidé de ne pas traduire cet extrait. Et donc, en quelques mots, c'est on voit un père et son fils qui marchent en forêt, ils sont équipés d'un enregistreur, et le père essaye de faire en sorte que son fils puisse, à la fois dans la langue autochtone, reconnaître et nommer les bruits de la forêt, les branches qui craquent, les arbres, les oiseaux. Et alors, l'intention du père est très claire, apprendre à son fils le savoir pratique attaché à la langue. Mais alors, Simon Plouffe, est-ce que vous avez eu le sentiment que, de façon générale, les jeunes générations étaient réceptives à tous ces efforts de transmission?
Oui, effectivement, on parle de M. Jean-Paul Échaquan, qui est atikamekw et qui est le grand-père, en fait, du petit-fils qu'on voit. Donc, il y a quand même deux générations qui les séparent, mais j'imagine à travers les technologies comme Jean-Paul utilise les petits enregistreurs pour justement conserver des sons de la nature et également pour les traduire et pour les mettre en mots. Et ces enregistrements-là servent en fait de vulgarisation et aussi de transmission de la langue chez les plus jeunes générations comme le petit James apprend avec lui sur le territoire. Et je pense que c'est de cette façon-là que les jeunes, on va dire, reconnectent de plus en plus avec le côté traditionnel et aussi avec les mots d'origine, les mots, la langue du bois, comme dirait Jean-Paul et d'autres aînés qui conservent ces langues-là, soit sur enregistrement ou c'est souvent, en fait, un petit peu plus sur enregistrement que par écrit. Mais je crois que oui, avec les nouvelles technologies, les jeunes s'intéressent un peu plus, puisque si ça n'existe pas sur les tablettes, les téléphones ou les ordinateurs, les jeunes n'y portent un peu moins attention.
Voilà, c'était Simon Plouffe, réalisateur du film « Ceux qui viendront l'entendront » au micro de Samuel Bernard. Merci beaucoup à Bénédicte Pivot de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle, sociolinguiste, maîtresse de conférences à l'université Paul Valéry de Montpellier 3. Merci au studio France Bleu Héros à Montpellier d'avoir assuré le duplex.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et tout de suite, c'est l'heure du tour du monde des idées. Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Alors, dans de nombreux pays, on peut avoir le sentiment que la démocratie est fragilisée, contestée. Que lui reproche-t-on à notre démocratie?
Prenez la plus ancienne démocratie du monde, le Royaume-Uni, qui offre le spectacle pitoyable d'un Parlement incapable d'envoyer un message clair à l'exécutif sur la gestion du Brexit. Chez nous en France, le gouvernement, malgré l'immense pouvoir dont il dispose, apparaît tout aussi incapable de faire face à des émeutiers de plus en plus violents et qui viennent de mettre à sac la plus célèbre avenue d'Europe. Récemment dans Le Monde, le philosophe Marcel Gauchet reconnaissait la montée d'une demande d'efficacité politique qui se traduit par une aspiration à davantage d'autorité. Mais, ajoutait-il, ces confuses tentations autoritaires sont dépourvues d'idéologie. Elle ne dispose ni de force sociale, ni d'organisation politique pour les porter. Hélas, ce n'est plus si sûr. La démocratie est peut-être plus fragilisée qu'il y paraît. Que s'est-il passé en un quart de siècle pour que la démocratie libérale soit passée de « destin inéluctable du genre humain » au statut de « régime affaibli et menacé » ? Après la chute des régimes communistes à l'Est, Fukuyama imaginait que le monde entier allait adopter le modèle politique occidental, le plus mauvais à l'exception de tous les autres selon la formule fameuse de Churchill. Aujourd'hui, notre système de gouvernement, du peuple par le peuple pour le peuple, comme disait Abraham Lincoln, doit faire face à des concurrents inattendus. Il a perdu de son assurance et il apparaît sur la défensive. Dans « Comment gouverner un peuple roi », l'ouvrage qu'il vient de publier chez Odile Jacob, le philosophe français Pierre-Henri Tavoyot pointe les trois déceptions qu'engendre de nos jours la démocratie. Elle souffre d'une crise de la représentation, elle donne le sentiment d'une impuissance publique, elle est atteinte d'une profonde crise de sens. Mais quelles alternatives ? Certes, la théocratie conserve ses partisans. La révolution islamiste d'Iran a paru incarner un moment une alternative possible au gouvernement du peuple. Mais il est vite apparu que Dieu, demeurant silencieux sur les urgences politiques et sociales de l'heure, ce sont ses interprètes proclamés, les mollahs chiites en l'occurrence, qui s'arrogent l'interprétation de ses intentions secrètes. Les dictatures franches et nettes, genre Corée du Nord, ne font rêver personne. Non, le défi le plus pressant auquel doivent répondre nos démocraties, c'est celui de ce qu'on appelle dorénavant la démocratie illibérale. Pressant parce qu'il a pris racine au cœur même de l'Europe et qu'il tend à s'étendre. Or, ce type de régime prétend apporter des réponses aux causes de déception envers la démocratie telle qu'énumérée par Tavoyot.
Alors, ces causes, on peut les reprendre. Hein. Crise de la représentation, impuissance publique et crise de sens.
Crise de la représentation, Viktor Orban répond « Affranchissons-nous des contrôles juridictionnels et de celui de certaines agences internationales qui brident et limitent la volonté du peuple ». Impuissance publique, réponse des illibéraux, la séparation des pouvoirs est un facteur d'affaiblissement de la volonté nationale. Chez nous, le gouvernement met les juges au pas, il contrôle l'opinion via les médias publics et nous, nous gagnons les élections. Crise de sens, c'est bon pour l'Europe de l'Ouest, gagner au multiculturalisme. Assumons, nous, notre identité hongroise ou polonaise, européenne et chrétienne en tout cas. Mais Tavoyot identifie la matrice intellectuelle du régime qui aujourd'hui constitue le principal défi au modèle de la démocratie occidentale. Et ce modèle, il nous vient de Singapour. Son inventeur s'appelait Lee Kuan Yew. De cette cité-état, Singapour, qui manquait de tout et même d'eau potable, ce législateur exceptionnel a fait l'un des pays les plus riches du monde, le sixième pour le PIB par habitant et l'un des plus stables, bref, un modèle. La doctrine Lee, résume Tavoyot, peut se définir comme la promotion d'une république autoritaire et méritocratique, fondée sur un État interventionniste et social, et gérée par une élite au service de l'intérêt général dans le cadre d'une économie de marché. Un politologue canadien qui enseigne en Chine, Daniel A. Bell, à ne pas confondre avec le sociologue fameux Daniel Bell, est devenu le principal théoricien et zélateur du modèle singapourien. Dans son livre « The China Model, Political Meritocracy and the Limits of Democracy », il accuse la démocratie occidentale de confier imprudemment le pouvoir à des personnalités parfois incapables de l'exercer. Les majorités, dit-il, ne sont pas nécessairement éclairées, ni même ni à même de s'informer de la réalité des problèmes. Elles peuvent être tentées, par exemple, d'opprimer une minorité au sein de la population. Le modèle singapourien, tel que le décrit donc toujours Daniel A. Bell, c'est une tentative de réconcilier démocratie et méritocratie. Je cite « Singapour pratique la démocratie à la base, l'expérimentation au milieu, la méritocratie au sommet. Les dirigeants sont sélectionnés par une élite éclairée, selon la philosophie confucéenne, pour leurs capacités intellectuelles, leur sens social et leurs vertus. »
Eh bien, merci beaucoup Brice Couturier. Votre chronique à retrouver et réécouter comme toujours sur franceculture.fr.